Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, amicalement vôtre.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Vous êtes à un feu rouge. Vous venez de vous immobiliser devant ce stop et la voiture à votre gauche vous nargue. Le conducteur fait frombir son moteur en signe de défi. Allez, la course est lancée. Il y a encore quelques minutes, vous ne vous connaissiez même pas. À peine vous vous êtes bloqué à la sortie de l'aéroport de Nice. Et vous voilà lancé dans une course dangereuse et sans merci sur la route sinueuse du bord de mer menant de Nice à Monte-Carlo. C'est purement un affrontement de coqs, hein. Des coqs arrogants et frimeurs. L'un est dans une Ferrari, l'autre dans une Aston Martin. L'image va se diviser en deux, puis en quatre, pour mieux représenter cette bagarre effrénée menée à toute allure, sans grand résultat d'ailleurs, puisque vous arriverez tous les deux exactement en même temps devant le palace de la principauté de Monaco où vous allez séjourner. Une scène sans grand intérêt, sans but. Et pourtant, tout le concept de la série y est symbolisé. Un duo de playboys milliardaires qui s'ennuient, n'ont plus d'objectifs dans la vie et vont être persuadés de devenir des redresseurs de tort, aidés en cela par l'attrait de jeunes filles toutes plus séduisantes les unes que les autres et qui sont la plupart du temps en grand danger. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné de nom. Bah, c'est fait exprès. Égalité parfaite, vous êtes l'un des deux milliardaires héros de cette histoire. À vous de choisir lequel, mais vous restez strictement sur un pied d'égalité. Personne pour voler la vedette à l'autre. Personne qui n'apparaît en premier au générique. Personne qui a les meilleures répliques. Personne qui n'est le faire-valoir de l'autre. C'est même votre agent artistique qui va y veiller. Bon, jusqu'à l'absurdité, hein, parce que, en effet, pratiquement 30 ans après la série, il insista pour qu'on retouche des photos de production, afin que vous y ayez exactement la même taille que votre partenaire. Bon, franchement, 30 ans après, c'est grotesque. Mais bon, hey, il faut bien qu'un agent justifie son pourcentage. Hein. Mais sinon, dans la série, vous êtes pareil que votre partenaire. Ni meilleur, ni pire. En réalité, vous êtes banal, futile, sans grande envergure. Ah, vous avez de l'argent, hein ? Mais ça ne fait pas tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un juge à la retraite, le juge Fulton. Laissons-lui la parole.
Oui. Celui-ci est le premier. Un sang bleu, issu d'une grande famille, Lord Brett Sinclair.
Que savez-vous sur lui ?
Il n'a plus de secret.
Et il va marcher ?
Oui, si on s'y prend bien.
L'autre, qui est-ce ?
L'autre est plutôt différent. Un arriviste. Danny Wilde. Je ne sais pas tout à son sujet, je dois l'avouer. Son passé comporte quelques trous, mais je pense en savoir assez.
Vous croyez réussir à le convaincre ?
Il le faut. L'un sans l'autre, ils n'ont aucun intérêt pour moi. Ça ne marchera pas si je ne peux les avoir tous les deux.
Pourquoi eux ?
Ils ont tous les deux une certaine valeur, mais additionnés, comme en chimie. Prenez deux produits relativement peu dangereux, disons du nitrate et de la glycérine. Mêlez ces produits et vous allez obtenir une combinaison explosive.
En réalité, sans porter ombrage à son interprète, Laurence Naismith, ce n'est pas le juge Fulton qui a réuni Danny Wilde et Brett Sinclair. Ce n'est même pas Robert Baker, le créateur de la série.
Hello, I'm Robert Baker. I'm the producer of The Saint and later on The Persuaders.
Non, celui qui a vraiment créé Amicalement Vôtre, très directement, il a pour nom Lou Gwade. Lou Gwade, c'est un réfugié juif, fuyant la Russie, élevé dans la banlieue de Londres. Il fut danseur de vaudeville, puis agent des stars de télévision de l'époque, et il décrocha même Bob Hope pour un spectacle en Grande-Bretagne. Enfin, il fut le premier à s'intéresser à la télévision privée, qui, en 1955, débarquait en Grande-Bretagne et faisant explorer le monopole ronronnant de la BBC sur les antennes du pays. À la tête de ITV, Lou Gwade programma tout ce que la BBC ne souhaitait pas voir. Des variétés, des jeux, des soap-opéras, bref, de l'entertainment. Lou Gwade a acquis le surnom de Mr. Television. Chez lui, il avait deux postes qui marchaient en permanence. L'un sur la BBC, l'autre sur ITV. L'homme vivait, respirait, mangeait télévision. Et il avait d'autres ambitions que de diffuser des programmes uniquement pour la Grande-Bretagne. Il était aussi à la tête de la branche production de la chaîne ITV, la compagnie ITC. ITC. Lou Gred avait un raisonnement très très logique. Si on devait produire des séries, il fallait le faire pour le monde entier et pas uniquement pour la Grande-Bretagne. En visant spécifiquement le territoire américain et ses grandes chaînes privées, Lou Gred espérait décrocher des budgets qui lui permettraient de rentabiliser ses séries et de ne pas perdre sa chemise en finançant à perte quelque chose qui ne dépasserait pas les frontières. Courageusement, il sortit 390 000 livres du capital de la firme, qui était d'ailleurs de 500 000, donc il avait quand même un gros paquet, pour produire une spectaculaire série sur Robin des Bois. Il décrocha Richard Greene pour tenir le rôle iconique du bandit de la forêt de Sherwood, et la série fut un véritable smash hit, un succès qui réunissait 30 millions d'Américains en prime time sur la CBS, chaîne qui avait été convaincue par Lou Gred d'acheter la série. Elle dura, tenez-vous bien, 143 épisodes. C'était la première création britannique à ainsi percer aux États-Unis. Son impact fut colossal, rien qu'en France. Elle incita les responsables de l'ORTF à lancer Thierry Lafronde pour répondre à la demande et à la concurrence. En Grande-Bretagne, cela propulsa Lou Gred au sommet des producteurs télé, lui qui avait trouvé la formule magique et faisait rayonner la création anglaise. Bon, même si, pour être totalement franc, les épisodes de Robin des Bois étaient écrits par des scénaristes américains. Des scénaristes qui étaient blacklistés suite au maccartisme qui régnait à Hollywood et trouvaient ainsi refuge. Année après année, Lou Gred a lancé des séries britanniques spécifiquement faites pour séduire le monde entier. Il se lança dans les séries contemporaines avec L'Homme Invisible, puis avec Destination Danger, donnant ainsi sa chance à Patrick McGowan. Il produisit des séries en marionnettes de Gerry Anderson et fit un carton dans le monde entier avec les Thunderbirds. Il recueillit un artiste qui ne parvenait pas à convaincre les télévisions de son pays et lança le premier programme de variété présenté par des marionnettes, le Muppet Show. Jim Henson et Frank Oz lui doivent leur carrière. Lou Gred fit de la firme ITC une force internationale, un acteur majeur de l'industrie de la télévision. Et malgré les critiques acerbes et cyniques concernant ses productions très grand public qui sortaient des studios de la ITC, il fut anobli en 1969, récompensant ainsi sa contribution au pays tout entier. Voici ce que Robert Baker nous en disait, à moi et Christophe Petit, quand nous sommes allés à sa rencontre. Ce qui était remarquable avec Lou Gred, c'est que c'était le dernier de son genre, le dernier homme de spectacle de ce pays. Il n'existe plus de nos jours. Si vous ameniez une idée à Lou, s'il l'aime, il vous donnait son feu vert. Il ne demandait à personne d'autre. Il avait le sentiment profond que ça allait marcher. Il se disait que s'il aimait, le public allait l'aimer. Ça allait rouler. Et ce qui était formidable avec lui, c'est que une fois qu'il donnait son feu vert au producteur, il n'intervenait plus du tout. Il ne choisissait pas les histoires, rien. Tout ce qui lui importait, c'était la distribution des rôles principaux. Une fois que c'était fait, le producteur avait le champ libre. Il n'intervenait jamais. Il ne venait jamais voir les rushs de tournage. La seule fois où il voyait un épisode, c'était quand il était entièrement terminé et qu'il allait le vendre au network américain. Il n'y a plus personne comme Lou, malheureusement. C'était une période formidable pour la télévision anglaise. Les années 60 étaient bouillonnantes et excitantes. Producteurs, créateurs et acteurs ont systématiquement les mêmes souvenirs avec Lou Gred. C'est en quelques minutes, dans un de ses rendez-vous très matinal de 7h du matin à son bureau, que Lou, tout en tirant des bouffées de son gros cigare, était convaincu ou pas par un projet et donnait son feu vert à Patrick McGowan, par exemple, pour lancer Le Prisonnier, ou à Gerry Anderson pour mettre en route Cosmos 1999. Pas de contrat. Le contrat, ça vient bien plus tard. Une poignée de main suffit. Sa parole suffit. Le budget était immédiatement débloqué. Et c'est ainsi que ça s'est passé avec une série emblématique qui eut sa part dans la création d'Amicalement Vôtre, Le Saint. Écoutons Robert Baker nous raconter cette aventure télévisuelle hors du commun. En fait, c'était plutôt marrant. À l'origine, j'avais proposé à la chaîne londonienne Rediffusion de faire le saint.
Rediffusion, which was one of the London stations. And,
ils aimaient bien l'idée, mais ils pensaient que ça allait coûter trop cher. Ensuite, j'ai été invité à un bal de charité quelques semaines plus tard par Stanley Black. Assis à ma table, il y avait Luke Wade. Alors, après le dîner, pendant que nos épouses étaient parties se repoudrer le nez et qu'on fumait une cigarette, je me suis rapproché près de Lou et je lui ai dit « Lou, je possède les droits du saint. » Il me dit alors « Soyez dans mon bureau lundi matin. » On était samedi soir. Je vais donc à ce rendez-vous lundi matin. Je lui montre le contrat que j'ai avec Chartwell et que j'avais bien les droits. Il me dit « Super, allez voir Chartwell qui vivait en Floride et passez un accord. » Donc le mercredi, je me suis envolé pour la Floride et j'en suis revenu une semaine plus tard avec un accord signé qui accompagnait les droits d'adaptation du saint. Le reste, c'est une histoire connue. On a fini par choisir Roger Moore, qui était absolument parfait. Je veux dire que si un rôle a jamais été écrit pour un acteur, c'est celui du saint pour Roger Moore. Il est absolument parfait dans le rôle. Ça fonctionnait très bien. Et Roger, le tout premier jour des rushs, quand je les ai vus, je savais immédiatement qu'on avait là un succès. Parce que Roger était génial. Le personnage fonctionnait. Vous pouviez immédiatement voir que tout allait bien se passer. Et ça a été le cas. Le saint fut un succès massif. Pas un petit succès, pas un gros succès. Un succès massif, gigantesque. Diffusé dans 87 pays. Initialement refusé par tous les networks, alors que la NBC finit par le prendre et lui donner un impact sur tout le territoire américain. Lancée en 1962, la série passa du noir et blanc à la couleur et s'arrêta en 1969, non sans avoir semé des graines pour une autre production. Ça faisait depuis quelque temps que j'avais une idée derrière la tête. On tournait le saint et on arrivait à la fin de la série. J'ai donc décidé de tenter une expérience. On a écrit un épisode du saint avec Roger Moore et un Américain. Nous avons expérimenté l'idée d'Amicalement Vôtre. Sauf que, plutôt que d'avoir un roi des affaires venant de Brooklyn, ce qui était le cas avec Tony Curtis, nous avions un Texan millionnaire. On a donc tenté cette idée dans un épisode du saint, et ça a très bien fonctionné. L'épisode en question dont Robert Baker vient de nous parler a pour titre The Ex-King of Diamonds, en français Le Roi. Et effectivement, le duo entre Simon Templar et ce Texan Tony Truant au large chapeau de cow-boy, interprété par Stuart Damon, future vedette d'une autre série de ITC, Les Champions, fonctionne très bien, complémentaires dans leurs différences. Le test est probant, restez à créer cette nouvelle série qui est pour l'instant baptisée The Friendly Persuaders. Avec cette idée en tête, nous avons amené le concept d'Amicalement Vôtre à Luke Wade, qui dirigeait la compagnie, déjà responsable du
saint.
On lui a vendu l'idée de l'Américain et de Roger Moore, et donc de la série. Et il a dit, allez-y, faites-le. La seule chose que nous ayons à faire était de trouver une vedette américaine capable de jouer face à Roger Moore. Lou a décroché un accord avec ABC aux États-Unis et on a lancé la discussion pour trouver le rôle de l'Américain. Notre première intention, c'était d'avoir Rock Hudson, mais on n'a pas pu le convaincre. Notre choix suivant était pour un acteur que vous connaissez sans doute, Glenn Ford, mais il n'était pas disponible. On a donc fait un rendez-vous avec le network et je leur ai dit, écoutez, donnez-moi une liste d'acteurs que vous aimeriez pour la série et je verrai qui je peux avoir. Ils ont donc fait comme tel. Et quelqu'un a mentionné Tony Curtis. J'ai dit, bien, voyons si on peut voir Curtis. Lou a parlé à l'agent de Curtis, et Curtis était intéressé. On est donc parti le voir à Los Angeles. Les premières discussions avaient lieu à New York. On est parti à Los Angeles, on a rencontré et convaincu Curtis et il a été d'accord. Et c'est ainsi que nous avons eu Tony Curtis et Roger Moore. Ça nous a forcé à modifier un peu le concept en remplaçant le Texan par un enfant des rues de New York qui est devenu extrêmement riche. Et c'est comme ça que la série a été lancée.
Become a very rich man, and that's basically how the series started.
Three, take one.
Bonjour. Je suis Tony Curtis. Ici mon ami Roger Moore. Roger Moore et moi avons travaillé dans le cinéma Les Normes, The Persuaders, par télévision. That's not bad.
Ça c'est français?
Non.
Vous êtes formidable. Really? Formidable.
Thank you. Merci bien.
Excusez-moi pour mon ami. Je suis Roger Moore.
Oui.
Et Louis est...
Louis.
Comment se
nomme-t-il? Name is Tony.
Ah, il s'appelle Tony Curtis.
Yes,
Tony Curtis.
Yeah, sure.
Et nous faisons maintenant notre série pour télévision. Et j'espère que vous pouvez viewer. C'est bon?
Yeah, like.
Viewer cette série.
Yeah. I like mine.
Bonsoir, mesdames et messieurs.
Il parle bien français. Hein. C'est donc une surprise pour toute la profession. 90 minutes d'entretien au Beverly Hills Hotel, Lou Grade réussit à convaincre Tony Curtis de faire ce qu'il se refuse obstinément à faire jusqu'alors, une série télé. Curtis n'a en effet plus rien à prouver, tant son parcours est auréolé de films mythiques. Les Vikings, La Chaîne, certains Lame Show, L'Étrangleur de Boston, Spartacus. Bon, il était là un petit peu au creux de la vague, mais quand même. Curtis raconta ensuite que, en plus du salaire et du plaisir de jouer avec Roger Moore, il était ravi de passer 18 mois loin d'Hollywood, qu'il ne supportait plus. Quant à Roger Moore, non seulement il venait de terminer Le Saint, mais il avait aussi une longue carrière de héros de séries télé, entre Ivanhoe, un des frères Maverick dans la série du même nom, The Alaskans, une série des studios Warner. Bref, désireux de passer à autre chose après Le Saint, Lou Grade parvient à le convaincre en lui fourrant un énorme cigare dans la bouche et en lui disant qu'il faisait cela pour la reine, pour la couronne, pour le pays.
Bonsoir, deux créoles crème, s'il vous plaît.
Oui. Pardon ?
Deux créoles... Vous êtes nouveau ?
Oui, monsieur.
Ah, laissez-moi vous dire qu'après les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Vous m'écoutez ?
Eh oui, monsieur.
Une gorgée de rhum blanc. Ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais et non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez et servez dans une coupe. Et mettez une olive.
Deux.
Vous m'avez parlé ?
Non.
Non, c'est moi qui ai dit deux. Deux. Vous étiez parfait jusqu'aux olives. Oui, deux olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre.
Accord est pris. Tony Curtis arrive en Grande-Bretagne pour y tourner la première saison d'Amicalement Vôtre et il se fait arrêter à l'aéroport de Londres. Avec de l'herbe. Voilà. Ni plus moins. Juste avant que les policiers ne trouvent le sachet, il glisse dans la poche du producteur venu là pour le réceptionner des cachets d'amphétamine. Tony Curtis passe devant le juge le lendemain matin et se prend une amende de 50 livres. Il fait aussi une énorme pub, bien indirecte, à la future série.
Wow.
Pour commencer, on a ces deux très très bons acteurs. Et ils ont une complicité immédiate qui s'est établie entre eux. On les encourageait à improviser. Entre deux termes, les scénarios étaient écrits, mais on leur disait d'utiliser leurs propres mots. On voulait encourager la spontanéité pour que cela donne l'impression que les acteurs pensaient à tout cela au fil des scènes. C'est exactement ce qui s'est produit, tout en restant dans la structure du scénario. Chaque prise était légèrement différente. Bon, le gros problème était qu'on avait deux ou trois prises de la même scène, chacune était différente, mais alors, invariablement, on tournait un plan de coupe, un gros plan par exemple, et on prenait le meilleur de chaque prise et on les montait ensemble. Et ça donnait la série. Et comme ça, la série fonctionnait. C'était vraiment une idée qui pouvait marcher ou se planter. Mais le fait que nous avions de très bons artistes faisait que ça pouvait fonctionner. On a beaucoup prétendu que les deux stars de la série ne se supportaient pas. Rien n'était plus faux. Curtis et Moore l'ont dit à plusieurs reprises par la suite. Bon, bien sûr, leur caractère était très opposé. Curtis était plus volatile et colérique que Moore, qui était lui plus désinvolte. Mais il y a toujours eu un profond respect entre eux. Et ce que l'on voyait à l'écran, cette rivalité bon enfant, était vraiment ce qui se passait hors caméra. Chacun n'avait pas assez de qualificatifs élogieux pour l'autre. Par contre, oui, leur style de vie était très différent. Tony Curtis n'était pas disponible le matin avant d'avoir fumé un ou deux joints. Dans le livre de Véronique Denise et Eric Martinet, Roger Moore raconte que
« Nous étions avec Tony associés à part égale dans la série. Tony nous voyait comme Laurel et Hardy, mais il n'a jamais dit qui était le gros. Rétrospectivement, je ne pense pas que nous nous sentions particulièrement en compétition. Pas plus que deux acteurs qui essayaient de faire de leur mieux dans les limites imposées par un tournage pour la télévision. »
Ce sont deux acteurs à la longue carrière, des professionnels. Ils se sont très bien entendus. Ils pouvaient tenter de se surpasser l'un l'autre sur le tournage, ce qui convenait très bien à la série. Il y avait une sorte de compétition entre eux. Je pense que ça a transpiré dans le résultat final.
Deux adultes, n'est-ce pas? Possédant d'immenses qualités, je vous le concède. Et comment les utilisez-vous? Vous vous battez pour une olive?
Non, deux olives.
L'un comme l'autre, vous n'êtes que des parasites pour l'humanité, messieurs. Mais vous aimez vous battre. Eh bien, entendu, j'ai un motif à vous donner. Si vous en êtes capable.
On savait que la série allait coûter très cher. Sur la télévision, on n'avait jamais réuni des stars comme Roger Moore et Tony Curtis. Tony Curtis n'avait jamais fait de série télé avant cela. Il faisait des films. Et Roger a eu beaucoup de succès avec Le Saint. On savait donc que ça allait être coûteux. On a décidé d'y aller à fond et de vraiment faire une série riche et spectaculaire. Avec des acteurs chers, il faut faire une série chère. Et ça a très bien fonctionné, car la série a eu beaucoup de succès.
It worked very well. The show was highly successful.
Amicalement vôtre est tourné en 35 mm, comme un film de cinéma. C'est le même format. En fait, ça a l'air de rien comme ça, mais ça change tout. Toutes les séries américaines étaient et ont continué d'être tournées en 35 mm, avant l'avènement du numérique haute définition. Pourquoi ? Parce que, exactement comme pour un film, cette taille de pellicule permet des images profondes, nettes, lumineuses, contrastées et avec une immense palette de couleurs. En comparaison, le 16 mm, communément utilisé pour les programmes de télévision dans tous les pays du monde, est meilleur marché. Mais comme son nom l'indique, ça fait 16 mm, donc la pellicule est deux fois moins grande. Donc, du grain, des couleurs moins vives, une image moins nette. Mais surtout à cette époque, en Grande-Bretagne, si Lou Grade tenait vraiment à mettre le paquet et à tourner ses séries en 35 mm, c'était pour être au même niveau que les standards américains. Mais c'était aussi un vrai luxe qui permettait d'améliorer très sensiblement la réputation des séries. Les réalisateurs étaient aussi formés et habitués au long métrage. Le directeur de la photo, par exemple, Gilbert Taylor, avait travaillé sur des séries de ITC, mais aussi bossé sur le Répulsion de Roman Polanski. Et il était directeur photo sur le premier Guerre des étoiles. Le budget d'Amicalement Vôtre était de 2 500 000 livres. C'était la série britannique la plus coûteuse à cette date. Celui qui peut nous en parler de vive voix, c'est le partenaire de Bob Baker et de Roger Moore dans la structure de production Tribune. Il s'appelle Johnny Goodman. Goodman a travaillé sur la production du Saint, des Champions et donc d'Amicalement Vôtre. À l'époque des tout premiers épisodes du Saint, en 1962, je pense qu'une heure de série télé, qui fait en réalité 52 minutes à cause des publicités, donc 52 minutes à cette époque, ça coûtait probablement entre, 30-40 000 livres, c'est-à-dire 226 000 francs, 34 600 euros. De nos jours, le coût d'une série dramatique traditionnelle, contemporaine, c'est plutôt un demi-million de livres. 575 000 euros. Et ça, c'est pour des séries très traditionnelles. Si vous faites une série historique qui vous fait remonter le temps, un épisode peut coûter 700 000, 800 000 livres. Amicalement Vôtre, en 1972, je me souviens pas bien, mais c'était 80 000 livres, donc 92 000 euros par épisode, avec deux grosses stars. Par comparaison, ça coûterait sans doute 650 à 700 000 livres de nos jours. Le coût s'est accéléré avec les années. Ensuite, la pré-production sur une série de 13 épisodes d'une heure, par exemple, ça me demandait sans doute, 8 à 10 semaines de préparation. Ensuite, on essayait de tourner chaque épisode en 10 jours. Je crois qu'Amicalement Vôtre était un peu plus compliqué. Quelquefois, ça prenait 11 jours et demi, 12 jours. Mais en général, on essayait de faire un épisode d'une heure en 10 jours. Et maintenant, avec les coûts de production, c'est de plus en plus crucial que ça ne soit pas plus de 10 jours.
Et aujourd'hui, je suis effrayé avec les coûts de production, c'est devenu plus et plus vital.
Nous, on se prenait entre 10 et 12 jours sur chaque épisode du Saint ou d'Amicalement
Vôtre.
Pour des raisons économiques et logistiques évidentes, la plupart des séries, et surtout les séries de ITC, sont tournées en studio, à Elstree ou à Pinewood. Pour le Saint, c'était la règle. On avait des images d'archives où une seconde équipe allait tourner des plans de Londres. Et dès qu'on passait la porte, Simon Templar rentrait dans un studio extrêmement éloigné de Londres, de Rome ou tous les autres pays où il était censé être. Pour les extérieurs, on faisait un usage massif du backlot, c'est-à-dire les espaces de tournage accolés aux hangars des studios, des jardins, des fausses rues, etc. etc. Amicalement Vôtre avait deux grosses stars. C'était une série très glamour, bien sûr. Les intérieurs étaient à Pinewood, mais il fallait donner du glamour et du spectacle aux chaînes de télé du monde entier pour qu'elles achètent la série. Et quel autre endroit pour deux richissimes milliardaires que la Riviera, la Côte d'Azur. Bref, c'était le paradis. Le tournage commence donc par 6 semaines en France, à Nice et à Monte-Carlo pour le premier épisode et des scènes des épisodes suivants. On a commencé le tournage par aller dans le sud de la France. Je pense que c'était en mai 1970. On est resté en France pour 6 à 8 semaines. On a tourné des scènes et des plans pour environ 6 épisodes différents. Ensuite, on est revenu à Londres. On a tourné les intérieurs en studio pour faire correspondre les 6 épisodes que nous avions tournés dans le sud de la France, avec les intérieurs en studio. On a aussi tourné 2 jours à Paris pour un épisode. Tout le reste était fait au Royaume-Uni, mais on utilisait des décors en studio pour simuler des lieux étrangers. Et on envoyait une seconde équipe dans ces pays pour nous faire des images en utilisant des doublures, des voitures, etc. En termes de séries télé, c'était assez opulent et très brillant. C'est donc là que fut tournée la scène où Brett Sinclair et Danny Wilde se croisent devant l'aéroport de Nice et font la course jusqu'à Monte-Carlo. Ce premier épisode, d'ailleurs, ouverture ou en français premier contact, était crucial pour la série et il a été écrit par Brian Clements, le fameux scénariste et concepteur de Chapeau moulant et bottes de cuir. Et Terry Nation, le créateur des Daleks dans Doctor Who, était le directeur de collection de la série. Johnny Goodman faisait bien sûr partie de l'équipe en place sur la Côte d'Azur. Comme je faisais partie de la compagnie montée par Bob et par Roger Moore, Tribune, j'étais partie intégrante de l'aspect financier, mais aussi créatif de la série. Et c'était une série très excitante. On avait ce tournage dans le sud de la France, où nous avons tourné un peu plus de 3 épisodes. On était basé à Nice. Roger était dans un palace. Je me souviens plus du nom de l'endroit, enfin, juste à l'extérieur de Cannes, avec la piscine qui jouxte l'océan. Roger et Tony logeaient là. C'est très agréable de filmer là, il faut le dire. Tourner dans ce coin de la France, c'est un vrai luxe. Et c'était formidable. J'ai apprécié beaucoup Amicalement Vôtre, plus que tout le reste. Il y régnait vraiment une ambiance familiale, avec Bob, Roger et moi, travaillant ensemble sur cette série, dirigeant la compagnie, bref, c'était génial. Une fois de retour en Grande-Bretagne, le tournage se poursuit avec tous les épisodes de la première saison, ce qui n'empêchait pas de faire de The Persuaders la série la plus clinquante, la plus glamour, la plus somptueuse possible. Tony Curtis allait jusqu'à acheter sa garde-robe et portait une tenue différente pour chaque épisode. Roger Moore dessinait ses propres costumes. Définitivement, la série était le symbole de son époque.
Yes, well, it, 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 uh...
Oui, on est tombé dans une période merveilleuse en Europe, les années 60. En fait, dans le monde entier, il y a eu une toute nouvelle ère qui s'ouvrait. La série reflétait très très bien cette liberté, cette atmosphère si particulière de cette époque. Oui, on montrait plein de jolies jeunes filles, des grosses voitures, des décors somptueux. C'était la période. Après les années de guerre, les années 60 ont tout changé.
After the dim years of the war and the immediate following up of the war,
les Beatles sont arrivés en 1962 ou quelque chose comme ça. Tout a changé pour les 10 années suivantes. Et on s'est reposé sur ce mode de vie de l'époque. Le troisième épisode, Minuit moins 8 km, se déroule en Italie et compte comme guest star John Collins, qui n'était pas encore devenu la méga bitch Alexis Carrington Colby de Dynasty. Et un des meilleurs épisodes de la série, mais un petit peu différent du reste, est un ami d'enfance où Danny Wilde retrouve dans une boîte de nuit à Cannes, en plein festival du film, un ami d'enfance avec qui il survivait dans les quartiers pauvres de Brooklyn. Mais Angie, cet ami d'enfance, a suivi lui un tout autre chemin que Danny en devenant tueur à gages. Bon, la grande majorité des autres épisodes sont plus amusants, tels un petit coin tranquille où la bicoque délabrée que Danny a achetée en pleine campagne anglaise s'avère être un lieu stratégique pour des espions.
Il faudra que je bricole ça. Bien, alors, ça, c'est la salle de bain. Ça, c'est l'entrée plutôt. Tiens, viens, viens. Attention, tu vas voir la pièce la plus magnifique. Oh, regarde ça. Hein? Oh, avance. Non, mais admire ça. On ne bâtit plus de maison de cette façon de nos jours. Mais il fallait que je fasse un raccord de toute manière.
Oui, c'était nécessaire.
Oui, hein. Bon, là, le long de ce grand mur, je mets une bibliothèque, tout le long du mur, un électrophone dans le coin, et là, une télévision. Un petit divan ici, et puis là, tiens, j'en mets un autre, on ne sait jamais, tu comprends? Et ça, dis donc, ça, tu sais ce que c'est?
Ah, ça, non.
C'est une cheminée, mon vieux.
Non, c'est vrai.
Ah, ben oui, elle a besoin d'un petit nettoyage et je placerai un fauteuil à bascule ici et au plus profond de l'hiver. Quand le vent fouettera mes fenêtres, je me balancerai avec mon fidèle vieux chien allongé à mes côtés.
Daniel, tu n'as pas de chien.
Eh ben, j'en louerai un.
Il y a aussi l'épisode Un enchaînement de circonstances, qui est une reprise, un gros clin d'œil au film La chaîne de Stanley Kramer, où Tony Curtis était enchaîné à Sidney Poitier. Là, Tony Curtis est enchaîné à une mallette. Et puis il y a surtout Regret éternel, une version amicalement vôtre du fameux Noblesse oblige avec Alec Guinness. Là, c'est Roger Moore qui incarne lui-même plusieurs membres de sa famille qui se font tuer un par un. Moore prend un malin plaisir à se déguiser et va jusqu'à jouer Lady Agatha.
Lance, dear, I brought you one of your friends a little light refreshment, some of that spare those nice Americans left up.
Thank you, Agatha.
Yes, there
oh,
we are.
Oh, it's very beautiful. Thank you very, very much.
Oh, it's 10:30, precisely.
Jeff is a post. Lady Agatha, Danny Wilde. How do you do? Oh. It's a pleasure to meet you. There's a very strong family resemblance.
I beg your pardon?
There's a strong family resemblance.
Well, I wouldn't know, would I? I've never met anybody else in your family.
I don't mean my family. I mean your family, Brett. Brett, your nephew,
Oh, it's the same in our family, you know, isn't it, Lance, dear? They say our nephew, Brett, bears a strong resemblance to me.
Well, it was a fun series.
C'était une série amusante. Et le but de la série était de distraire. Les histoires étaient basiques. Très simple. Elles étaient les supports pour que nos acteurs puissent être mis en avant. On avait des thrillers assez traditionnels, mais on y ajoutait pas mal de comédies pour nos deux acteurs. C'était presque comme un sketch à rallonge pour un duo comique. On encourageait ça et ça marchait très bien. Vous savez, le grand George Bernard Shaw a dit un jour que la Grande-Bretagne et l'Amérique étaient divisées par la même langue. Et c'est tout à fait vrai. Parce que même si on parle la même langue et que nous avons une culture très très similaire, il y a beaucoup de différences entre les Anglais et les Américains. Et c'est là-dessus que nous avons basé tout notre humour. L'attitude de l'Anglais face à une chose et l'attitude de l'Américain face à cette même chose. Ils essaient tous les deux d'atteindre leur but, chacun à leur façon, avec des méthodes totalement différentes. On a donc basé la comédie sur la mauvaise perception qui existe entre nos deux nations. C'était notre base.
Between the two nations, so that was the basis of the comedy.
Le premier pays à découvrir Amicalement Vôtre fut l'Australie, où elle devint instantanément un immense succès. En Allemagne, la série portait le nom de Die Zwei, et en France, bien sûr, Amicalement Vôtre. Ben, il était quand même un peu compliqué, voire impossible, de reprendre le titre original de la série et de le traduire. Parce que les persuadeurs, ben, ça signifie pas grand-chose. Il n'y a qu'aux États-Unis, sur ABC le samedi soir, que The Persuaders ne parvient pas à séduire un public déjà happé par Mission Impossible, qui était diffusée en face à la même heure, et qui n'allait sans doute pas suivre une série d'aventures mi-sérieuses, mi-comiques, à 22h. Un horaire où les dramas généralement plus sérieux, genre séries policières ou médicales, étaient diffusés. Pour référence, la saison suivante, dans cette même case horaire, ABC diffusa la très angoissante et la quasi-terrifiante Sixième Sens, série sur la parapsychologie avec des visions absolument effrayantes. Malgré cet échec sur ABC, Lou Grade avait bien intention de lancer une seconde saison de 24 épisodes de sa série phare. Mais 007 pointa son Walter PPK et eut raison de Lord Brett Sinclair.
That's right.
Oui, c'est tout à fait ça. On pensait faire une autre saison d'Amicalement Vôtre quand Roger Moore s'est vu proposer le rôle de James Bond. Bien évidemment, bon, on n'allait pas se mettre en travers de son chemin pour ce rôle qui devait être en plus permanent. Donc avec Roger parti, on a décidé de ne pas continuer la série. On avait évoqué à un moment remplacer Roger par quelqu'un d'autre. On y a pensé, mais non, on a fait 24 épisodes, on est très heureux, restons-en là.
Let's forget it. Let's leave it at that.
De ces 24 épisodes, il en reste aussi un élément iconique, mythique, devenu célèbre et incontournable, autant pour les yeux que pour les oreilles. Le générique de la série. L'idée de départ, c'était d'expliquer dans le générique le passé de nos deux personnages, avant même qu'ils n'apparaissent à l'écran. Plutôt que de faire de longues scènes pour développer leur personnalité et leurs conditions, on a choisi de compacter tout cela dans le générique. Donc vous avez des photos de Tony Curtis, jeune enfant, et Roger, en fait, ce sont les photos de son fils. Et on suit leur évolution dans le générique. Donc quand on découvre les deux personnages, ben on les connaît déjà. C'était tout le but du générique. Et la musique de John Barry était unique. C'était un son différent, qui avait un type de qualité différente des autres. Ça fonctionnait très bien. C'était un peu comme un style... Je sais pas. Presque un peu russe.
It had a Russian feel to the music that seemed to work.
John Barry est un homme très très intelligent en termes de musique. Il voulait vraiment quelque chose de très différent du thème musical traditionnel d'une série télé. Et ce qu'il a trouvé était absolument formidable.
And he came up with that, and of course it was delightful.
On ne vantera jamais assez le thème musical de John Barry, même si toutes les autres musiques incidentales sont de Ken Thorne. John Barry est le très grand compositeur des James Bond, de Vivre Libre, de Macadam Cowboy. Pour la télévision, on retrouva son style musical dans une série comme Vendetta, qu'on ne connaît pas en France. On le retrouva aussi dans une autre série de Lou Grade, une série ITC, bien moins glamour et très superficielle celle-ci, L'Aventurier. Écoutez la musique, ça vous fait penser à quelque chose ? longtemps après, il composa aussi un générique dans une courte série, pas très réussie celle-là non plus, mais qui bénéficia d'un présentateur absolument fabuleux, Orson Welles. La série s'appelait Orson Welles' Great Mysteries et on pourrait jurer que ce générique est une copie des deux précédents. Par la suite, John Barry composa des musiques inoubliables pour Somewhere in Time, Out of Africa ou encore Le Trou Noir, le film de science-fiction post-Star Wars de Disney. Sa discographie est impressionnante.
C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie.
Il se trouve que tu es en train de boire du thé.
Ah bon, bah alors pardonne-moi, bah c'est le plus mauvais thé que j'ai bu, infect. Dis, tu dois vraiment aller à la chambre d'Elor ce matin?
Oui, si je finis de m'habiller à temps.
Oh, il arrive. Oh, mais il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique? Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Ah.
Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou.
Ah, mais te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique.
Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent.
Bah, si tu te promenais à New York dans cette tenue, tu n'irais pas loin.
Alors, quelle est votre décision?
Eh ben, nous allons nous marier.
Voilà le souvenir que continue de nous laisser Dany et ton Altesse. Une série qui marque la fin d'une époque pour les séries britanniques de la firme ITC, le début d'une autre, faite de Baz Luhrmann Alpha et de Kermit la Grenouille, d'une évolution pour le type de série frivole, fantasque et fun, qu'on aurait plaisir à revoir encore et encore. On a tenté de nombreuses fois en faire un remake. Le showrunner de Taxi Brooklyn, Gary Scott Thompson, planchait sur un projet avec les Anglais. Le producteur de Aquarius avait aussi ce projet dans son tiroir. Et Ian Moix comptait faire une version cinéma de la série après avoir tourné Podium. Rien de tout ça ne s'est concrétisé, mais la série est toujours rediffusée chez nous.
Je ne suis pas mécontent d'en avoir terminé, mais j'ai passé un moment agréable.
Moi, j'ai été ravi de te rencontrer et de te battre.
Sœur Roger, Tony, Bob et Sœur Lou, merci à vous. We got it together, didn't we? Dans le prochain Previously, nous danserons sur du Barry White avec le biscuit dans les toilettes unisexes. Et nous boirons notre premier cappuccino de la journée avec une intensité toute particulière. Mais pour revivre les émois et délires d'Ally McBeal, il va falloir être patient. Les podcasts vont en effet faire une pause, que l'on espère tous la plus courte possible. A très bientôt donc pour le prochain Previously. Ce podcast est à écouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.